Bonsoir à tous, c'est la conférence, une des conférences du cycle Sciences de l'Homme que nous organisons en partenariat avec les écoles doctorales Sciences de l'Homme. Je remercie Monsieur Rigalo de ce partenariat avec l'Espace Mendès France. Nous avons invité Jacqueline Carrois, qui est une amie de la maison, donc on est toujours content de la revoir chez nous, qui va nous parler du pays des rêves du 19e siècle, Nuit savante, une histoire des rêves. Donc cette conférence a fait l'objet d'un ouvrage qui est édité à l'école des hautes études en sciences sociales. Jacqueline, je vais lire mon texte parce que la grande difficulté, c'est de présenter les gens qu'on les a mis. Donc il vaut mieux avoir un texte parce qu'on a toujours peur de dire des bêtises. Donc tu es directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Tu es membre du Centre Coiré d'Histoire des sciences et techniques, donc, dont tu as été la directrice, et spécialiste de l'histoire des sciences humaines, de la psychologie, de la psychanalyse et de la psychiatrie. Tu t'es intéressée à l'histoire de l'hystérie et de l'hypnose et travailles sur la constitution d'une science des rêves au XIXe siècle. Et tu as été aussi présidente de la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme, qui est à l'origine aussi de notre séminaire, de notre cycle de conférences Jalons pour une histoire des sciences de l'homme. Donc merci beaucoup à toi, Jacqueline, nous t'écoutons. Merci.
Alors, est-ce que là, vous... je vais rapprocher peut-être. Donc, vous allez avoir un petit recueil de textes, d'exempliers, qui va un peu illustrer ma conférence et qui, donc, vous donnera un certain nombre d'exemples. Alors, pourquoi ai-je intitulé... ça va comme ça, vous m'entendez ? Bon, non, mais je me mets un peu plus loin, si vous le souhaitez. Donc, pourquoi l'ai-je intitulé « Le pays des rêves » ? Tout simplement, j'ai repris un titre de Charles Nodier, donc romancier et littérateur de la première moitié du XIXe siècle, et qui, dans cet article, donc, s'intéressait au sommeil et aux rêves, et il parlait des pays des rêves. Alors, ce titre me permettra au fond de parler d'un point de vue donc historique, puisque ma perspective n'est pas psychologique au sens propre, elle n'est pas psychanalytique, elle est historique et je me situe donc dans l'histoire des sciences. Donc, je voudrais essayer de parler des différentes manières dont on a appréhendé le rêve au XIXe siècle et en mettant l'accent évidemment sur ce qui m'a intéressé dans... principalement dans le livre donc dont vous avez le titre Nuit savante, titre qui montre que je me suis intéressée donc à la constitution d'une science des rêves au XIXe siècle, donc avant Freud. Je dirais qu'il y a eu une sorte de perte de mémoire de cette science des rêves. Alors, je porte pas de jugement sur cette science des rêves pour dire qu'elle était meilleure ou plus mauvaise que la psychanalyse, mais il y a donc eu tout un intérêt pour les rêves et toute une manière d'essayer de capturer scientifiquement les rêves en s'opposant notamment à ce qu'on appelait les superstitions. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, les superstitions ? Ça voulait dire, donc, les rêves qui sont censés renvoyer à l'avenir, être prémonitoires. Ça pouvait vouloir dire aussi des attaques plus ou moins contre la religion, puisque dans la Bible, vous avez des prophéties, des rêves prophétiques, etc. Et ça pouvait vouloir dire aussi s'attaquer à ce qu'on appelait, comment dire, un genre populaire par rapport aux rêves, c'est-à-dire les clés des songes. Et dans le petit recueil d'exemples que vous aurez, là, vous verrez que je vous ai mis deux extraits de clés des songes du XIXe siècle. Alors, que veut dire clés des songes ? Clés des songes, donc, ça renvoie à une pratique d'interprétation des rêves qui remonte à l'Antiquité, notamment à Artémidore, qui est donc un auteur du IIe siècle après Jésus-Christ. Et le texte d'Artémidore nous est parvenu intégralement. Il y avait d'autres clés des songes, mais seul celui d'Artémidore nous est parvenu. On pourrait aussi parler d'onirocritique, c'est le terme qui est employé chez les Grecs, donc critique des rêves, enfin. Et dans cette perspective, donc, il y a des rêves qui renvoie directement à ce qui va arriver, mais il y a aussi des rêves qu'il faut interpréter, c'est-à-dire qui recèlent un sens caché, et on parle à ce moment-là de rêves allégoriques que l'on oppose aux rêves théorématiques. Et les rêves donc sont censés, dans cette perspective, évidemment, avoir un sens concernant l'avenir. Et une nouvelle pratique apparaît dont on a assez peu parlé finalement, plutôt au XVIIIe siècle en Europe, c'est la pratique de jouer ses rêves à la loterie. C'est-à-dire que, par exemple, vous rêvez d'un chat, et ce terme est associé, alors en général c'est mauvais signe de rêver de chat, contrairement au chien. Mais oui, mais bien sûr, je le dis exprès. Je trouve que c'est injuste pour les chats. Et en tous les cas, ce terme est associé à un chiffre. Et vous, par exemple, si le chiffre 10, et vous devez aussitôt aller jouer un numéro de tri comportant le chiffre 10. Alors, dans le recueil que vous avez, justement, le texte numéro 5, vous avez des chiffres qui peuvent vous paraître énigmatiques. Et c'est une clé des songes qui permet de jouer à la loterie, et donc vous voyez que vous pouvez jouer le 42, le 21, le 32, etc. à la loterie. Et je vous rappelle que cette pratique est répandue au XVIIIe siècle, et vous la trouvez également encore maintenant en Italie notamment, à Naples. Vous pouvez acheter ce qu'on appelle une smorfia, c'est-à-dire une grimace, je ne sais pas pourquoi ce terme, et vous avez ça prend la forme d'un petit dictionnaire avec un certain nombre de mots, et voilà, vous regardez, vous lisez votre dictionnaire, et vous voyez qu'est-ce que ça présage, et qu'est-ce que vous allez jouer à la loterie. Voilà. Donc, cette forme des clés des songes sous forme de dictionnaire, elle apparaît probablement plutôt au Moyen-Âge. Enfin, là, je me réfère à, évidemment, d'autres travaux que les miens. Et donc, il faut vraiment imaginer qu'il y a une pratique populaire des rêves au XIXe siècle. Populaire, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des livres qui se vendent par colportage, effectivement, et puis il y a des livres un peu plus luxueux qui vont se vendre, par exemple, non pas en colportage, mais qui vont se vendre dans ce qu'on appelle les marchands de nouveautés. Chez les marchands de nouveautés, l'une des références que je vous ai données, le grand interprète des songes, c'est chez les marchands de nouveautés, l'équivalent, on pourrait dire, de base art actuel ou quelque chose de cet ordre. Et vous avez encore, au début du XIXe siècle, enfin, on a un témoignage en tous les cas chez Alfred Maury, donc je vais vous parler tout de suite. Il explique que quand il était jeune, je pense dans les années 1930-1940, il y avait des colporteurs dans les rues de Paris qui criaient « Avez-vous rêvé de chien ? Avez-vous rêvé de chat ?» Et ils vendaient des petites brochures. Mais donc je rappelle aussi qu'il y avait des clés des songes plus luxueuses. Et le grand interprète des songes dont je vous ai donné un exemple, dont je vous ai donné un tout petit extrait, c'était déjà un livre assez luxueux avec des jolies gravures, bien imprimées, etc. Et qui pouvait donc sans doute coûter plus cher. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il a perduré depuis la médecine antique, depuis Hippocrate et Galien, donc une pratique d'interprétation des rêves, le patient ayant des rêves, étant censé avoir des rêves prodromiques ou symptomatiques. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un exemple donné par Galien, un patient, un malade, rêve qu'il a une jambe en pierre et effectivement, quelques jours après, il est paralysé. Donc le rêve à la fois est un message du corps et il annonce, il peut annoncer une maladie qui incube. Et cette tradition, elle s'est maintenue dans la médecine du XIXe siècle, sans doute assez marginalement, mais on trouve les livres sur les rêves, des livres cette fois-ci savants sur les rêves, qui parlent de cette question justement de l'interprétation symptomatique ou prodromique des rêves. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui est mieux mieux accepté, qui apparaît comme relevant moins du domaine de ce qu'on appelle la superstition. J'en arrive maintenant donc au thème de la science des rêves. Et ce que j'ai appelé donc les nuits savantes. Et donc dans mon livre, j'ai essayé d'identifier un certain nombre de savants qui ont écrit des livres reposant sur l'exemple de leurs propres rêves. C'est-à-dire que ça devient donc des collectionneurs qui collectionnent leurs propres rêves, qui collectionnent des rêves autour d'eux et qui cherchent à transmettre ce qu'ils appellent des faits, c'est-à-dire des phénomènes fiables, observables, et non pas des phénomènes transmis par la tradition, par les clés des songes, etc. Donc, et du coup, leur combat se porte essentiellement contre le fait que les rêves renvoient au futur. Et en fait, il montre que finalement, et ça c'est un thème qui parcourt toute cette science des rêves du 19e siècle, les rêves renvoient au passé. Donc, on croit qu'ils sont prémonitoires, mais en fait, quand on les examine, on s'aperçoit qu'ils renvoient alors au passé de la veille, mais aussi au passé, à un passé plus ancien, éventuellement à un passé de l'enfance. Et les rêves peuvent avoir un caractère qu'on appelle hypermnésique, c'est-à-dire que c'est une mémoire. On croyait avoir oublié quelque chose, et d'un seul coup, on retrouve en rêve un souvenir qu'on identifie finalement comme renvoyant à une période très ancienne. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment parcourir cette science des rêves et qui va être extrêmement important. Deuxième chose, les rêves renvoient au corps. Donc c'est un message du corps, de ce qu'on appelle les sensations internes venues du corps. Et par là même, les rêves alors peuvent être liés par exemple à une mauvaise digestion, donc qui procure souvent des cauchemars. Donc vous voyez, les cauchemars ne sont plus rattachés à une origine diabolique, mais à une mauvaise digestion. Ils peuvent également renvoyer aux organes génitaux, et donc dans cette littérature, donc les rêves érotiques sont masculins, puisque c'est une littérature masculine. Hein, je rappelle qu'à l'époque, les femmes médecins, c'est à la fin du 19e siècle, par exemple, pour ne donner qu'un exemple. Et donc, effectivement, c'est une littérature d'hommes masculine. Et donc, vous allez avoir l'idée que, finalement, les rêves inspirent, le corps inspire des phénomènes érotiques liés à, je reprends ici Maury, à un orgasme des organes sexuels. Orgasme ayant dans le sens médical, ça renvoie à excitation sexuelle plutôt que à ce que nous appelons orgasme actuellement. Donc, dans cette littérature, les rêves érotiques ne sont pas censurés, on les évoque, on ne les détaille pas, évidemment, parce qu'à ce moment-là, on serait dans de la littérature pornographique, hein, mais on les évoque. Et donc voilà. Enfin, autre chose, on va rattacher les rêves très souvent à une sensation extérieure transformée. Et ça va être une des explications les plus importantes du rêve. Vous en aurez plusieurs exemples dans le texte là que vous avez, dans les extraits que vous avez. On peut par exemple donner alors un texte qu'on cite encore maintenant, le texte de Bergson. Donc c'est le texte numéro 9 dans lequel Bergson c'est une conférence qu'il fait sur les rêves, et il nous dit: permettez au conférencier de vous raconter un de ses rêves. Le rêveur se croit à la tribune, à Dans une assemblée, un murmure confus s'élève du fond de l'auditoire, il s'accentue, il devient grondement, hurlement, vacarme épouvantable, enfin résonne de toutes parts, scandé sur un rythme régulier, des cris à la porte, réveil brusque à ce moment, un chien aboyait dans le jardin. jardin voisin, et avec chacun des wawa du chien, un des cris à la porte se confondait. Voilà l'instant à saisir pour comprendre le rêve, donc, nous dit Bergson. Donc, vous voyez que là, c'est au fond l'une des grandes explications du rêve, les aboiements du chien qui deviennent dans le sommeil un wawa, pour reprendre Bergson. Enfin, un autre type d'explication, et ça je crois que c'est un point très important, c'est l'association des idées. C'est-à-dire que depuis le XVIIIe siècle, fin du XVIIIe et début du XIXe, et notamment donc avec un auteur qui s'appelle Dugal Stewart, qui est tout le temps cité au XIXe, donc on montre que les rêves renvoient à des associations d'idées qui ne sont pas réfrénées, hein, qui ne sont pas arrêtées, qui donc vont se déployer librement, et ce qui fait que le rêve va s'apparenter à un jeu sur les mots, un jeu avec les mots, à une fabrique de calembours, etc. Donc on va avoir comme cela une sorte de fabrication cocasse qui fait souvent rire. Et ici, je voudrais vous citer un texte. Alors, c'est un texte qui est paru, justement, c'est intéressant parce que c'est le texte numéro 7. C'est donc la page 2. Hein. C'est le texte donc d'un certain Jacques Le Lorrain qui publie une observation sur les rêves dans la Revue philosophique. La Revue philosophique, c'est donc une revue savante de philosophie, mais aussi de psychologie et de sciences humaines en général, pourrait-on dire. Et là, exceptionnellement sur les rêves, le directeur donne la parole donc à ce littérateur qui s'appelle Jacques Le Lorrain. Et il nous explique donc « Tout à coup, j'eus la vision d'un garçon boucher menant un veau à l'abattoir et tirant fortement sur la corde. Soudain, l'homme disparut, mais je vis que l'animal avait échangé sa propre tête contre la tête de son conducteur. Puis l'homme revint, orné d'une tête nouvelle. Il amenait avec lui un train auquel il attacha le veau récalcitrant, puis il cria au mécanicien « En route !» Je montai dans un compartiment, désirant ne pas manquer cette occasion de voyager gratis. Je ne m'inquiétais pas de savoir si le train marchait dans ma direction. Je ne comprenais qu'une chose, c'est qu'il fallait profiter de la gratuité d'un voyage. Il y a là un effet de raisonnement, mais de raisonnement incomplet. Cependant, le train avançait d'une allure toute bovine. Je trouvais cela naturel, puisqu'il y avait un veau dans l'affaire. Je confondais le remorqueur et le remorqué, le bœuf et le train. Encore un exemple de fusion. Donc, vous voyez que là, ce rêve joue sur des jeux de mots, allure bovine, le bœuf, etc. Et en même temps, sur le thème des changements de tête. Alors, je reparlerai plus précisément de Jacques Le Lorrain tout à l'heure, mais je voulais simplement ici vous donner un exemple de ces associations d'idées qui sont extrêmement fréquentes et qui sont extrêmement fréquemment pointées par ces savants rêveurs, ce que j'appelle ces savants rêveurs du 19e siècle, dans leurs exemples. Alors, on voit là donc qu'il y a une sorte de fonctionnement de l'esprit. Il n'y a pas seulement le corps, mais il y a aussi un fonctionnement de l'esprit qui se fait par association d'idées et qui peut aussi prendre des allures vertigineuses. Et notamment, on peut en quelque sorte, et c'est ce qu'on va voir dans l'exemple qui va me servir de fil directeur, l'exemple du rêve de la guillotine, donc on peut avoir des rêves de très longs scénarios oniriques qui se déroulent en très peu de temps, ce qui va susciter débat et controverses. Donc je crois aussi que, évidemment, à travers toute cette science des rêves, on voit apparaître le thème d'un fonctionnement automatique de l'esprit qui est parfois appelé inscient ou inconscient. Donc on voit là qu'on est dans une perspective qui est où l'inconscient est déjà présent, hein. Et ce terme est employé. Donc c'est pas, enfin je veux dire que la création quand, du mot inconscient par la psychanalyse, c'est pas une création, c'est la reprise d'un mot, alors auquel on donne un sens nouveau et différent, certes, mais en quelque sorte, on parle pendant tout le 19e siècle d'automatisme, d'inconscient. Alors il s'agit pas de dire que c'est déjà Freud qui est présent, mais il s'agit de dire que cette littérature est donc, en tous les cas, l'inconscient est un thème extrêmement présent. Et d'ailleurs, je signale que Freud connaissait extrêmement bien cette littérature. Hein. Si vous lisez l'interprétation du rêve, vous voyez qu'il y a un très long premier chapitre qu'on ne lit généralement pas parce qu'on ne connaît plus les auteurs, on les a oubliés. Hein. Et dans ce très long premier chapitre, eh bien, justement, Freud fait un tour de la question et manifestement, c'était quelqu'un qui était très érudit sur la science des rêves de son époque. Donc, il n'est pas parti de rien. Hein. Il est bien sûr parti de ses propres rêves, mais en partant de ses propres rêves, il a suivi une tradition qui était déjà bien établie, n'est-ce pas ? Le fait de noter ses rêves et de prendre ses rêves comme exemple pour comprendre le fonctionnement, un fonctionnement psychologique. Ça, c'est donc un point qui est en quelque sorte une norme scientifique à la fin du 19e siècle. Alors, inversement, effectivement, on n'interprète pas les rêves, c'est-à-dire qu'on ne leur cherche pas à proprement parler un sens caché, parce que justement, chercher un sens caché ou allégorique, au fond, pourrait faire revenir les clés des songes sur le devant de la scène. Donc, on est très méfiant par rapport à l'idée que le rêve pourrait avoir un sens caché ou allégorique. Cependant, je rappelle que les médecins continuent de parler d'interprétation des rêves. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on croit. Et je rappelle que Freud, dans l'interprétation du rêve, rappelle cette tradition médicale. Donc, en réalité, je crois que comment dire, à la fois on n'interprète pas et en même temps on peut faire fonctionner, disons, le récit de rêve publié, puisque je rappelle qu'on publie des récits de rêve, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes de discrétion, par exemple. On peut donner au récit d'un rêve, en fait, ce que j'appellerais statut de fable ou d'allégorie en le publiant. Et maintenant, j'en arrive peut-être donc à mon recueil d'exemples. On pourra revenir sur certains points dans la discussion. Donc, autour d'un rêve qui a été extrêmement célèbre au XIXe siècle, qui a été en quelque sorte commenté par beaucoup de personnages, y compris par Freud, puisque vous avez justement ce que j'appellerais une rêverie de Freud autour du rêve de Maurice, c'est le texte numéro 8. Donc, je vous rappelle peut-être que au fond, au XIXe siècle, et ça c'est un rêve, sans doute ce rêve de guillotine, un rêve très français, hein, donc au XIXe siècle, la guillotine donne lieu à tout un imaginaire qui a été étudié par différents travaux comme ceux de Daniel Arras et plus récemment ceux de l'historienne de la médecine Anne Carroll. Et la guillotine devient un thème récurrent de rêve qu'on retrouve notamment chez les aliénés. Et je vous donne ici donc le texte numéro 1. C'est un texte tiré de l'aliéniste, donc un psychiatre, hein, on les appellera psychiatres ensuite, Brière de Boismont, qui nous dit « Parmi les variétés nombreuses du cauchemar, nous ne voulons point passer sous silence celle qui consiste à se croire condamnée à mort. On voit faire tous les préparatifs du supplice, on monte sur l'échafaud, la tête tombe et cependant on continue à percevoir comme si rien n'était arrivé. » Donc ça, c'est un texte de 1845. Brière de Boismont participe à la Société médico-psychologique, qui est la société qui regroupe les psychiatres de l'époque, les aliénistes. Et Brière de Boismont est un ami d'Alfred Maury, dont vous avez le fameux rêve de la guillotine. C'est le texte numéro 3. Alors, Maury, donc, n'est pas médecin. C'est un historien érudit, mais c'est quelqu'un qui va assez vite être reconnu académiquement. Alors, lorsqu'il publie Le rêve de la guillotine, c'est lors d'une conférence à la Société médico-psychologique, donc qui est publiée dans les annales médico-psychologiques, et il la raconte en 1852. Donc, Maury est un historien. C'est un érudit. Il est à l'époque bibliothécaire à l'Institut de France, donc à la bibliothèque de l'Institut. Il deviendra ensuite membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et puis professeur au Collège de France, et puis enfin directeur des Archives nationales. Donc vous voyez que c'est un personnage assez considérable, mais évidemment, il n'est ni médecin ni philosophe, mais il est l'ami des psychiatres, et notamment il fréquente la Société médico-psychologique à cette époque. Alors, donc je vous lis ce rêve parce qu'on va le retrouver perpétuellement reproduit. Je rappelle que dans cette version de 1852, le coup est désigné par le col, c'est le terme archaïque ancien pour le coup. D'ailleurs, dans les éditions ultérieures, Maury remplacera le coup par le col. Mais j'ai gardé la première version, si vous voulez. J'étais un peu malade et je me trouvais couchée dans ma chambre, ayant ma mère à mon chevet. Je rêve de la terreur. J'assiste à des scènes de massacre. Je comparais devant le tribunal révolutionnaire. Je vois Robespierre, Marat, Fouquier-Tinville, toutes les plus vilaines figures de cette époque terrible. Je discute avec eux. Enfin, après bien des événements que je ne me rappelle qu'imparfaitement et dont je ne voudrais pas vous ennuyer, messieurs, je suis jugée, condamnée à mort, conduite en charrette au milieu d'un concours immense sur la place de la Révolution. Je monte sur l'échafaud, l'exécuteur me lie sur la planche fatale, il la fait basculer, le coup prétombe, je sens ma tête se séparer de mon tronc, je m'éveille en proie à la plus vive angoisse, je me trouve sur le col, la flèche de mon lit qui s'était détachée, qui était tombée sur mes vertèbres cervicales, à la façon du couteau de la guillotine. Cela avait eu lieu à l'instant, ainsi que ma mère me le confirma. Et cependant, c'était cette sensation externe que j'avais prise, comme dans le cas que j'ai cité plus haut, comme point de départ d'un rêve où tant de faits s'étaient succédés. Donc ce rêve, vous le voyez, alors la flèche du lit, c'est les lits, vous savez, vous avez des lits avec des rideaux, donc je pense que c'est la flèche qui tient les rideaux au-dessus du lit. Et donc la flèche tombe, et donc là, Maury... prend ce rêve comme exemple de deux choses. Premièrement, donc, de l'idée qu'une sensation extérieure va être à l'origine d'un rêve. Là, donc, c'est le cas de la flèche qui tombe sur le cou et qui évoque évidemment la guillotine. Et deuxièmement, donc, il va dire que ce rêve vient à l'appui du fait que la pensée en rêve se déroule à une très grande vitesse, vertigineusement, puisque ça a été finalement en quelques secondes, quoi, le temps que la flèche tombe sur son lit ou non. Alors, ce rêve est probablement un rêve assez ancien, car de toute façon, lorsqu'il le raconte en 1852, sa mère est morte. Il a laissé des souvenirs manuscrits donc à la bibliothèque de l'Institut, dans lesquels il rapporte justement les malheurs, les catastrophes qui lui sont arrivées pendant la Seconde République, donc vers 1850. Non seulement il a été effrayé par les journées de 1848, donc les émeutes parisiennes, mais aussi son frère s'est suicidé et sa mère et a développé des crises nerveuses à la suite donc de ce suicide. Donc là, il y a tout un enchevêtrement de circonstances très, très douloureuse que Maury révèle dans ses mémoires qu'il souhaitait voir publiée. Donc c'est aussi un certain courage, évidemment, de dire que son frère s'est suicidé, de le dire clairement et de ne pas le dire par sous-entendu. Alors, donc là, on peut penser que ce rêve, déjà, en évoquant sa mère, peut-être évoque, je dirais, une revenante, enfin, quelque chose, quelqu'un, en tous les cas, qui le fait revenir dans son rêve, puisque dans beaucoup de rêves de Maury apparaissent des morts. Alors là, c'est plutôt dans les circonstances du rêve. Et puis, bien entendu, ce récit, vous le voyez, nous renvoie cette fois-ci non pas à la guillotine comme instrument d'exécution des criminels, mais à la guillotine à son origine, c'est-à-dire sous la terreur. Donc là, on voit l'historien, en quelque sorte, qui remonte à l'origine de la guillotine. Et bien entendu, ce récit n'a pas besoin d'être commenté, puisque on voit bien là-dedans que Maury évoque quelque chose qui lui fait, qui fait terreur. Et il évoque des personnages qui sont devenus des personnages sinistres, des montagnards. C'est très important de dire que c'est des montagnards, Robespierre, Marat, Fouquier-Tinville. C'est vraiment, Fouquier-Tinville, c'est le juge du tribunal révolutionnaire qui sera à son tour guillotiné lorsque, avec Robespierre, donc lorsque Robespierre sera, en quelque sorte, il sera évincé du pouvoir. Donc là, on le voit, c'est une scène d'échafaud qui renvoie évidemment l'histoire, l'histoire, et qui renvoie aussi à la position de Maury qui se présente dans ses mémoires comme un républicain modéré, qui s'accommodera d'ailleurs assez bien de l'Empire, puisque en 1852, nous sommes sous le Second Empire. Donc, et il sera évidemment comblé d'honneur sous le Second Empire. Mais il continuera d'être directeur des archives nationales sous la Troisième République. Donc c'est quelqu'un qui va traverser les régimes. Donc on voit là Maury comme historien, et on voit évidemment que ce rêve fonctionne comme une fable. Au fond, il n'y a pas besoin de commenter le rêve. Le rêve renvoie à quelque chose qui peut être considéré comme commun, comme un rêve commun de guillotine, si l'on renvoie justement, si l'on voit que Brière de Boismont souligne que c'est là un thème commun de rêve français. Donc là, on a une sorte de, peut-être, de particularité culturelle des rêves français de l'époque, qui est de mettre en exergue le thème de la guillotine. Et justement, vous avez un rêve, un récit de rêve qui a lieu, enfin qui est publié un petit peu avant, un récit de rêve, donc dans chez Balzac, c'est le texte numéro 2, donc dans La Cousine Bête. Alors là, c'est le conseiller d'État, enfin c'est donc un héros de Balzac qui passe une nuit adultère avec dans le lit élégant et coquet de Valérie Crevel, donc c'est une femme, Crevel. Ils sont surpris, donc il y a le commissaire qui apparaît, et donc il y a un constat d'adultère. Donc il est en plein rêve, et que rêve-t-il donc au moment où surgissent les policiers? Eh bien, il rêve de guillotine. Peu d'hommes ont éprouvé réellement dans leur vie la sensation terrible d'aller à la mort. Ceux qui reviennent de l'échafaud se comptent, mais quelques rêveurs ont vigoureusement senti cette agonie en rêve. Ils en ont tout ressenti jusqu'au couteau qui s'applique sur le cou dans le moment où le réveil arrive avec le jour pour les délivrer. Eh bien, la sensation à laquelle le conseiller d'État fut en proie à 5 heures du matin dans le lit élégant et coquet de Crevel surpassa de beaucoup celle de se sentir appliquée sur la fatale bascule en présence de 10 000 spectateurs qui vous regardent par 20 000 rayons de flammes. Donc voilà un récit de rêve, cette fois-ci littéraire, de 1846. Et là, il semblerait que Balzac, au moment où il a écrit ce texte, lisait un texte de Victor Hugo contre la peine de mort, justement, « Les derniers jours d'un condamné ». Donc là, on peut imaginer que la lecture des derniers jours d'un condamné a inspiré à Balzac ce récit de rêve. Alors, si j'insiste sur ce récit de la cousine bête, c'est que vous allez voir qu'il va y avoir ensuite donc toute une discussion à la fin du XIXe siècle à propos du fameux rêve de la guillotine de Maury. Rêve de Maury guillotiné qui est cité dans tous les livres savants sur les rêves et qui devient célèbre et par exemple que l'on trouve dans les traités de philosophie de l'époque, dans les manuels de philosophie, exemple le rêve de la guillotine de Maury. Alors maintenant j'en arrive donc toujours vers cette époque. Il est intéressant de voir que le thème de la décapitation, de la décollation, apparaît dans les clés des songes. Alors, le terme apparaît sous la rubrique de col, avoir la tête tranchée. Col, donc pour cou, hein, c'est un terme plus archaïque. Alors, je renvoie ici au texte 5, où je vous ai donné quelques occurrences. Col, donc, songer être décollé par des brigands et des assassins signifie perte d'enfants, de parents, d'héritage ou de biens. Et à la femme, perte de bijoux. Donc vous voyez ensuite les numéros de loterie que vous devez jouer. Mais si c'est par sentence ou arrêt de justice qu'on lui coupe la tête, c'est signe qu'il sera délivré de tout ennui et de toute mauvaise affaire. Ce songe néanmoins signifie ruine pour les financiers, monnayeurs, fermiers et autres marchands. Alors, ce texte reprend en l'adaptant Artémidore, c'est-à-dire que là, si vous lisez Artémidore, vous voyez que notamment la fin repose sur un jeu de mots en grec dont je vous financier, parce que képhalè, ça veut dire la tête, et il y a un terme en grec qui veut dire les capitaux, vous voyez, qui renvoie à ce terme képhalè. Donc là, on voit que, alors, si on lisait Une clé des songes et si on essayait d'interpréter le rêve de Maury, vous voyez que on peut l'interpréter d'après Une clé des songes de deux manières différentes. On peut dire soit finalement Fouquier-Tinville et compagnie, c'est des vrais brigands et à ce moment-là, c'est mauvais signe. Soit il y a quand même eu jugement pour le rêveur et du coup, c'est plutôt bon signe. Donc voilà. Toutefois, ce qui est nouveau dans cette rubrique, donc col, c'est la femme. Car là, effectivement, la femme n'apparaît pas dans les rêves de décollation d'Artémidore. Et évidemment, là, il y a sans doute peut-être une nuance un peu grivoise, puisque les bijoux, si vous vous référez à Diderot, c'est les bijoux indiscrets, donc le sexe féminin. Et ce qui est intéressant dans cette clé des songes, c'est que vous allez voir apparaître le terme échafaud et guillotine. C'est-à-dire que ça, c'est un terme qui n'est évidemment pas dans Artémidore, bien entendu. Et on trouve ce terme échafaud et guillotine dans plusieurs clés des songes de l'époque. Quelquefois, il n'y est pas, quelquefois, il y est. Alors, cette clé des songes, le grand interprète des songes, elle va être rééditée. C'est quand même assez étonnant de voir la durée des rééditions. Elle va être rééditée jusqu'en 1980. Bon, vous voyez, ça. Et on va voir, alors, quand on lit les éditions successives, on voit apparaître dans cette clé des songes, par exemple, à un moment, le terme avion, vous voyez, qui évidemment n'existe pas à la date de la première édition. Donc, on voit les clés des songes qui, là, vous le voyez, donnent. On voit que c'est une autre manière de s'attacher au rêve, puisque là, d'entrée de jeu, on donne un sens au rêve. Alors que, effectivement, le sens du rêve de la guillotine, pour Maury, il est en quelque sorte implicite, si vous voulez. Il est dans le récit lui-même. Alors, je vous ai donné également un autre texte issu le texte 4, issu d'un petit livre populaire, cette fois-ci, publié dans une bibliothèque populaire. C'est le texte d'une femme catholique, Marie Curot, une Bretonne, de Saint-Brieuc, semble-t-il, ou des environs de Saint-Brieuc, et elle s'oppose aux clés des songes. Elle dit que les rêves n'ont pas un sens prémonitoire, que c'est en quelque sorte une superstition. Donc, je vous rappelle que dans le catholicisme, il y a aussi une lutte contre les superstitions. Enfin, et donc là, elle dit, en fait, on croit que les rêves ont un sens prémonitoire, mais en réalité, ils renvoient au passé. À un ressentiment du passé. Alors, c'est-à-dire qu'on ressent, on sent de nouveau. Hein, ressentiment ici, voulant dire sentir de nouveau. Alors, elle raconte là-dessus. Alors, elle reprend une rubrique de Clé des songes. Donc, songer avoir la tête tranchée. Donc, c'est, je pense, une citation de Clé des songes. Annonce liberté aux prisonniers, santé aux malades, consolation aux affligés, argent aux endettés, confiance aux soupçonneux, à tous des bonheurs. Donc, vous voyez, là, c'est une interprétation en sens contraire. C'est-à-dire que très souvent, dans les Clés des songes, vous avez vous rêvez, par exemple, de maladies. En fait, c'est signe de santé, vous voyez, ou des choses de ce genre. Donc, on interprète par le contraire. Alors, elle raconte une autre histoire, donc, dans laquelle, alors une petite histoire morale, dans laquelle une jeune fille, Caroline, et son père rêvent qu'on leur coupe la tête, et la jeune fille interroge son père, qui lui dit, est-ce que c'était un rêve prémonitoire, qui voulait dire que, comme j'étais malade, ma fièvre cesserait. Et donc son père lui dit, ma pauvre enfant, l'agitation qui faisait battre tes artères s'est calmée. Et ta tête qui te pesait n'a plus été lourde sur tes épaules, et dans ton sommeil, tu as cru qu'on te l'avait coupée. Ce n'est pas la tête qu'on t'avait enlevée, mais les inquiétudes qui la rendaient pesante. Rappelle-toi que le rêve n'est point un présage d'événements inconnus, donc vous voyez, il n'a pas un sens prémonitoire, mais le ressentiment du passé, plus ou moins obscurci par le sommeil. Donc là, elle reprend un thème qui est présent dans la science des rêves du 19e siècle, tout au long de cette science, elle s'en inspire manifestement en disant « le rêve renvoie au passé ». Donc, le rêve de la guillotine, donc je vous donnais quelques exemples d'occurrences de rêves de décollation ou de guillotine. Nous arrivons maintenant à la fin du 19e siècle, à une discussion extrêmement intéressante qui a lieu donc, en 1895 dans la Revue philosophique, donc, dont je vous ai déjà cité le rêve de Le Lorrain. Alors, en fait, dans la revue philosophique, donc, le directeur de la revue, qui s'appelle Théodule Ribaud, donc, publie une observation de Jacques Le Lorrain. Jacques Le Lorrain reprend le rêve de la guillotine et il s'interroge sur la vraisemblance de ce rêve en disant « mais c'est impossible qu'il ait fait un rêve aussi long dans un temps aussi court et il est probable qu'en réalité Maury a fait agir son imagination ». Et donc, il a reconstruit le rêve après coup. Et donc, ce n'est pas un rêve tout à fait vraisemblable. Alors, intervient dans cette discussion, donc, interviennent un certain nombre de philosophes, et notamment Victor Heeger, c'est le texte numéro 6. Victor Heeger, alors c'est intéressant, reproduit un rêve qu'il a noté donc en 1878. Donc vous voyez que le philosophe tient un carnet dans lequel il note ses rêves et dans lequel il va sur le modèle de Maury s'interroger sur la rapidité des rêves. Donc là, c'est tout un rêve qui a lieu entre le moment où on ouvre sa porte au lever, n'est-ce pas, avec une clé, et on lui apporte son déjeuner. Donc, on ouvre la porte, on lui apporte son déjeuner, quelques secondes, et là, il se met à rêver donc, d'un camarade. Alors, il y a tout un petit dialogue. Et ce qui est intéressant dans ce récit de rêve que je ne vais pas vous le lire en entier, vous le lirez ensuite, mais Heeger, là, propose un récit critique, c'est-à-dire qu'il nous propose un dialogue, mais il nous dit « Je ne puis pas certifier tous les mots ci-dessus notés. Généralement, les paroles authentiques du sommeil sont plus absurdes. Je garantis seulement l'allure du dialogue et son sens général, le nombre et le rythme de questions et de réponses. » Voilà. Donc là, on est dans une période, dans une perspective plus critique, et Victor Heger va mener toute une analyse du rêve de Maury en disant, eh bien, en réalité, le rêve de Maury est peut-être un rêve qui a été raconté et re-raconté et que Maury a en quelque sorte stylisé au fur et à mesure de ses récits. Il le rapproche d'un rêve de Balzac, le rêve que je vous ai lu, justement, le rêve numéro 2, et il dit peut-être que, en fait, Balzac s'est inspiré de Maury en écrivant le rêve de la cousine bête. Ils se seraient rencontrés dans un salon et Maury aurait pu raconter ce rêve et Balzac s'en serait souvenu dans la cousine bête. Mais l'inverse peut être tout à fait vrai aussi, puisque on peut penser que peut-être Maury, qui était un grand lecteur bien sûr, avait lu Balzac et que le rêve de la guillotine se modèle sur celui de Maury. En tous les cas, le rêve de la guillotine effectivement date probablement des années 1848, enfin on ne sait pas très bien, entre 1846 et 1848. Donc là, toute une discussion s'instaure sur le rêve, et Victor Heger donc dit qu'en fait, il ne faut pas raconter le rêve comme un récit cohérent, mais au contraire, essayer d'identifier dans le rêve des images, des tableaux. Donc il faut déconstruire le récit de rêve, il faut en quelque sorte le fragmenter et non pas essayer de le reconstruire comme une statue restaurée de l'Antiquité. Vous savez, à la Renaissance, on a restauré les statues de l'Antiquité, et le rêve de Maury serait en quelque sorte un rêve restauré, selon Victor Heger. Alors, on voit là effectivement comment une critique s'instaure, et cette discussion a été extrêmement suivie. Elle a été citée dans la littérature européenne donc sur les rêves, et on retrouve un écho de Victor Heger chez Freud, qui cite avec faveur les perspectives de Victor Heger. Cependant, pour Freud, le rêve de la guillotine est en fait un rêve vraisemblable, c'est-à-dire qu'il ne pense pas que c'est un rêve restauré, hein, comme l'avait soutenu Victor Heger. Il pense en effet que il y a des rêves très particuliers dans lesquels, au fond, le rêveur a, la veille, une sorte de scénario tout fait dans sa tête qu'il va très très vite retrouver lorsqu'il rêve. Et donc, ce sont des rêves qui se font donc à partir de fantasmes ou d'imagination, selon qu'on traduit, selon la traduction que l'on donne de Freud. Et de ce fait, donc, le rêve de la guillotine pourrait être vraisemblable. Et voici le commentaire de Freud. Alors, je ne vous ai pas donné tout le texte, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque Freud résume Maury, il n'évoque pas des montagnards, mais il évoque les Girondins et Danton, ce qui est évidemment un changement politique assez, assez intéressant. Et surtout, là, on pourrait dire qu'il se met lui-même à rêver à partir du rêve de la guillotine. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, il surimpose au rêve de la guillotine une sorte de vision d'Austro-Hongrois de la fin du XIXe siècle, donc, qui voit le XVIIIe siècle français comme un siècle en quelque sorte galant et héroïque. Et il s'exclame en ponctuant le rêve de la guillotine, qui ne se serait pas senti captivé, a fortiori en tant que Français et qu'historien des civilisations, par la description du temps de la terreur, où la noblesse, hommes et femmes, toute la fleur de la nation, a montré comment on pouvait mourir l'âme sereine, a conservé jusqu'à la convocation fatale toute la fraîcheur de son esprit et toute l'élégance de ses formes d'existence. Comme on pouvait être tenté de se projeter imaginairement au milieu de cet univers sous les traits de l'un de ces jeunes hommes qui prennent congé de leur dame, en leur faisant le baise-main avant de monter les marches de l'échafaud sans éprouver la moindre frayeur. Vous voyez évidemment que la fin du récit de Freud n'est absolument pas dans le récit de Maury. Donc là, c'est une sorte de rêverie de Freud lui-même, à partir probablement de ses propres lectures historiques sur le rêve de Maury, qui au contraire se termine par de l'angoisse. Donc, on voit là comment le rêve de Maury va donner lieu à d'autres discussions. Alors, par exemple, Bergson va citer le rêve de la guillotine dans son article sur le rêve. Et il va lui aussi dire que ce rêve peut être vraisemblable. C'est-à-dire qu'il ne va pas le critiquer à la manière de Victor Heger et de Jacques Le Lorrain. Enfin, j'en arrive ici à un texte littéraire, donc de 1913. C'est cette fois-ci dans Un amour de Swann. Vous savez qu'Un amour de Swann donc, se termine par un récit de rêve de Swann qui marque, en quelque sorte, qui fait ressurgir l'amour de Swann pour Odette, là, donc, et qui en même temps marque la fin de son amour pour Odette. Donc il y a les deux. Et la fin, alors c'est un très long rêve, qui est écrit d'ailleurs dans un style avec des phrases très courtes, un peu comme le rêve de Maury, alors que d'ordinaire, comme vous savez, Proust écrit avec de longues phrases, c'est même sa caractéristique. Et ce rêve se termine au moment où Swann est réveillé par son valet de chambre. Et on a là de nouveau une sensation extérieure transformée, comme dans le rêve de la guillotine. Une nuit noire se fit tout d'un coup, un tocsin sonna, des habitants passèrent en courant, se sauvant des maisons en flammes. Swann entendait le bruit des vagues qui sautaient et son cœur qui, avec la même violence, battait d'anxiété dans sa poitrine. Tout d'un coup, ses palpitations de cœur redoublèrent de vitesse. Il éprouva une souffrance, une nausée inexplicable. Un paysan couvert de brûlures lui jetait en passant « Venez demander à Charlus où Odette est allée finir la soirée. Il a été avec elle autrefois et elle lui dit tout. C'est eux qui ont mis le feu. » C'était son valet de chambre qui venait l'éveiller et lui disait « Monsieur, il est 8 heures et le coiffeur est là. Je lui ai dit de repasser dans 1 heure. » Vous voyez que le coup du valet de chambre se transforme en tocsin et ensuite développe toute une série d'associations où on voit reparaître notamment Odette et le baron de Charlus. Donc, et je rappelle donc que Proust avait lu Maury. Il connaissait certainement le rêve de la guillotine et il avait passé une licence de philosophie en Sorbonne. Et l'une de ses copies avait d'ailleurs été corrigée par Victor Heger. Et Victor Heger lui reprochait de faire de trop longues phrases déjà. Donc voilà. Donc on voit que là, on a une sensation extérieure transformée et en même temps la mise en scène donc d'un rêve dans lequel l'esprit fonctionne à une vitesse vertigineuse. Le temps, en quelque sorte, se concentre dans ce moment, dans ce bref instant où le valet de chambre frappe et où Swann se réveille. Alors, on a enfin le texte 11, donc c'est l'extrait de la lettre d'un poilu, cette fois-ci on est dans la Première Guerre mondiale, lettre d'un poilu à ses parents, il s'appelle Étienne Tanty, et donc je vous conseille la lecture des Violettes des tranchées, lettre d'un poilu qui n'aimait pas la guerre. Donc Étienne Tanty raconte à ses parents ses rêves. Donc c'est une manière pour lui, la plupart du temps, ses rêves, d'échapper à la guerre. C'est-à-dire qu'il raconte plutôt, non pas des rêves qui seraient des cauchemars, mais plutôt des rêves qui le renvoient au pays natal. Il habite Versailles, il est originaire de la Creuse, donc qui le renvoie à des lieux de la Creuse où il revoit ses parents, à Versailles, etc. Qu'il renvoie aussi à des meilleures nourritures que ce qu'il mange. Et il y a cependant dans les rêves qu'il raconte à ses parents, alors évidemment, vous voyez que c'est une fonction là d'offrande de récit, une fonction de don de récit qui fait revenir à la vie civile et qui rassure les parents. Et bien entendu, c'est des rêves adressés, donc on ne sait pas si Tantine n'a pas aussi des cauchemars. Il évoque quelquefois des cauchemars, mais il parle beaucoup plus de rêves qui le ramènent à la vie civile. Et il raconte néanmoins un cauchemar, et c'est intéressant de voir que le cauchemar qu'il raconte, c'est un cauchemar de guillotine. Alors, c'est le texte numéro 11. Alors, les circonstances sont intéressantes car Tanti est cette fois-ci dans un cantonnement plutôt à l'arrière. Donc, il a un sommeil qui devrait être en principe sans danger et sans bruit d'obus. Donc sans tintamarre, et il est dans un cantonnement donc un peu à l'arrière, donc il se promet qu'il va faire une bonne nuit, et pas du tout, car ses camarades d'escouade, de chambrée, donc je vous rappelle que c'est une petite unité de 15 soldats, l'escouade, ronflent. Ils se sont un petit peu saoulés, donc ils sont rentrés un peu avinés, et donc ils n'arrivent à se... Et puis d'autre part, il y a aussi un orage. Donc finalement, Tantine n'arrive à s'endormir qu'au matin. Et voici ce qu'il nous dit, donc. « Je me réveillais dans un horrible et bizarre cauchemar qui m'a fait positivement souffrir. J'étais condamné à mort et devais être guillotiné dans 20 minutes. Papa était avec moi, que j'ai été malheureux. Heureusement, papa a eu l'idée d'aller en appel et je me suis éveillée. » Alors, aller en appel, c'est donc dans un procès. Hein, donc. Alors, on voit là que le rêve que raconte Tanti, c'est donc un cauchemar qui est partageable avec ses parents. Puisque, alors, je rappelle que Tanti avait fait des études de philosophie, qu'il devait certainement connaître le rêve de la guillotine, et qu'en tous les cas, la guillotine hante l'imaginaire français. Donc c'est un rêve, c'est un cauchemar partageable, et un cauchemar dans lequel, au fond, un cauchemar civil, puisque là, c'est une mort, non pas guerrière, mais en quelque sorte civile, et même, c'est un cauchemar, c'est une mort dans laquelle on est en sursis. Alors, ce qui correspond aussi à la situation de guerre, hein, puisque, au fond, à tout moment, le soldat peut penser qu'il va mourir. Soit il est, disons, dans les tranchées à jouer aux cartes, et puis d'un seul coup, un obus tombe pas très loin de lui et déchiquette un de ses camarades ou lui-même. Hein. Ou bien, évidemment, lorsqu'il monte à l'assaut, puisque je rappelle que Tanti est donc dans l'infanterie, hein, et non pas dans l'artillerie, c'est-à-dire là où il y a le plus de morts, hein, bien sûr. Donc voilà, alors on voit là comment, en quelque sorte, Tanti raconte un quelque chose qui est un cauchemar, mais qui est partageable avec ses parents. Je crois que c'est tout à fait important. Alors, il y a un autre rêve de Tanti dans lequel il revoit en rêve et il le raconte à ses parents. Donc, un camarade mort, un rêve de revenant, mais un camarade qui l'a vu mourir auprès de lui, mais qui est seulement blessé dans son rêve. Donc, on voit une sorte de réparation et de cauchemar à certains égards bénéfiques. Alors... Donc, j'en arrive maintenant aux deux derniers textes et je vais peut-être m'arrêter là. Le texte numéro 12, c'est donc le texte d'un psychanalyste de l'entre-deux-guerres, psychanalyste français, René Alindy, donc, qui a écrit beaucoup de textes sur les rêves. Alors, c'est un freudien, donc il se réfère à Freud. Néanmoins, et ce qui est très frappant, c'est que dans cette littérature des psychanalystes de l'entre-deux-guerres, donc, on voit apparaître... des références à la science des rêves du XIXe siècle et presque toujours, ou souvent, au rêve de la guillotine. Donc voilà le rêve de la guillotine, de nouveau, repris par Alindy dans l'un de ses livres sur les rêves, donc « Rêves expliqués », qui paraît donc chez Gallimard en 1938. Donc il reprend à peu près le type d'explication de Freud, donc en disant qu'il y a des souvenirs, des rêveries lucides qui peuvent apparaître dans la matière du rêve, et donc il reprend justement le thème développé par Freud du fantasme tout près qui peut ressurgir. Alors, ce qui me frappe en lisant les premiers psychanalystes français ou francophones, je pense à Alain Dix, je pense à aussi Raymond de Saussure, le fils de Ferdinand de Saussure, donc le linguiste, qui publie des livres sur les rêves, et ils se considèrent plutôt comme des héritiers de la science des rêves. Ils se présentent plutôt comme des héritiers. Bien sûr, ils disent que Freud a apporté des choses nouvelles, mais donc ils disent que cette science des rêves donc a eu un statut précurseur pour eux. Alors, ils reprennent très souvent le rêve de la guillotine, notamment, et en même temps aussi. Il cherche plutôt, je dirais, à capter à leur profit la science des rêves du 19e siècle. C'est-à-dire qu'au même moment, certains psychologues français sont, surtout pendant l'entre-deux-guerres, sont très critiques par rapport à l'interprétation du rêve de Freud. Ils tirent à boulet rouge, si l'on veut. Et on voit les psychanalystes français dire, et souvent les psychologues français invoquent la science des rêves du 19e siècle en disant, mais en fait, Freud n'a rien inventé, Maury avait déjà tout dit, enfin j'exagère un peu, hein, Maury a vraiment le grand statut d'auteur classique du 19e siècle. Il tient un peu, si mutatis mutandis, la place culturellement, intellectuellement, que Freud peut tenir dans notre culture. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire que Maury et Freud, c'est la même chose. Ça veut dire simplement qu'il y a une place de classique qui est tenue par Maury à l'époque. Et donc, ces premiers psychanalystes ont plutôt tendance à revendiquer à leur profit cette science des rêves plutôt qu'à la vilipender. Et inversement, ils disent, mais en fait, ces auteurs avaient anticipé Freud. Donc, vous voyez que, et en tous les cas, ils connaissent très très bien cette science des rêves. Ils citent un certain nombre des auteurs dont j'ai parlé. Ils citent notamment, par exemple, Maury, mais aussi Delboeuf, enfin différents autres auteurs. Alors, j'en arriverai maintenant l'un des derniers savants, un autre professeur au Collège de France qui note ses rêves, à savoir Maurice Halvax. Donc, Maurice Halvax est connu évidemment comme un sociologue durkheimien, mais il s'est intéressé aux rêves et on a publié un long article de lui. Après la guerre, je vous rappelle que Halvax est mort en déportation, donc il a été élu au Collège de France, il n'a pas pu en fait y enseigner, il a été déporté et il est mort d'épuisement à Buchenwald, hein, pour résumer son destin tragique. Alors, à titre d'hommage à Maurice Halvax, en 1946, le journal de psychologie normale et pathologique qui avait mis la clé sous la porte pendant la guerre, puisque certains de ses collaborateurs, notamment, étaient devenus résistants. Le journal de psychologie normale et pathologique publie cet article de Halvax qui s'intitule « Le rêve et le langage inconscient dans le sommeil ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que Halvax cite à la fois Freud et la science des rêves du 19e. Donc, il est plutôt favorable à Freud, et quoi qu'il propose une explication du rêve sensiblement différente de l'explication freudienne, néanmoins, il accepte tout ce que Freud dit sur le travail du rêve. C'est-à-dire qu'il considère que les mécanismes de formation des rêves, donc du rêve manifeste à partir du rêve, des rêves latents, eh bien, ces descriptions sont justes. Et il s'essaye à une autre relecture du rêve de la guillotine, vous le voyez, dans le texte 13. Il dit « Il est très possible que la chute du ciel du lit se soit produite longtemps avant le réveil, que la sensation ait été d'abord traduite par des mots confus, entre autres guillotine, sur lesquels l'histoire du rêve s'est construite. C'est l'angoisse finale et non la sensation directement qui aurait causé le réveil. Inutile alors de supposer que le rêve s'est concentré en un très court espace de temps. » Donc là, vous le voyez, Alvax relie le rêve de Maury, le rêve de la guillotine, dans sa perspective à lui, puisqu'il propose de comprendre les rêves comme une sorte de prolongement du langage intérieur inconscient que l'on se tient. Et donc, ce serait le mot, le rêve, au fond, partirait d'un mot confus qui serait le mot guillotine et qui ensuite le produirait rétrospectivement. Alors, bon, quelle que soit la validité de cette explication, de toute façon, nous n'en aurons pas, puisque nous n'assistions pas au rêve de la guillotine de Maury, bien entendu. Hein, et vous voyez qu'il y a eu toute une série de controverses sur ce point. Ce qui me paraît important à travers ces différents exemples, c'est de vous montrer comment un récit de rêve a traversé différents mondes des rêves, le monde des clés des songes, le monde de la littérature, le monde de la science des rêves du 19e siècle. Donc ça, ce serait un premier point. Le deuxième point aussi qui me paraît important, c'est de montrer que les rêves peuvent au fond être l'équivalent de fables ou de récits politiques, et donc l'importance au fond du social et du politique dans les rêves qu'on oublie souvent, puisque on rattache trop souvent uniquement le rêve, je dirais, à la sexualité et à des désirs d'origine infantile. Donc, en tous les cas, là, on voit bien comment ces rêves ont été, en quelque sorte, branchés sur, si je me permets cette expression, sur une culture et sur un imaginaire collectif. Donc, je crois que ça, c'est un point important. Et aussi, comment, finalement, cette science des rêves a, à certains égards, préparer notre manière de rêver et notre manière de concevoir les rêves. Alors, je crois que l'un des points peut-être les plus nouveaux de Freud, si on voulait schématiser beaucoup, c'est que, premièrement, il dit que tous les rêves renvoient à la réalisation d'un désir, encore qu'il ait ensuite mis de l'eau dans son vin après justement la Première Guerre mondiale, mais c'est quand même bien ça. Alors ça, c'est accepté à l'époque, mais on dit que ce qu'on refuse, c'est la généralisation que fait Freud, de dire tous les rêves. On accepte très bien l'idée que certains rêves, beaucoup de rêves même, correspondent à la réalisation d'un désir, mais pas tous les rêves. Et c'est là-dessus qu'il y aura débat autour de l'interprétation du rêve de Freud. Enfin, le deuxième point qui, moi, me paraît extrêmement important, c'est que Freud invente une nouvelle pratique des rêves, une pratique liée à une thérapeutique. Enfin, j'emploie le terme de thérapeutique au sens très vague, c'est-à-dire que, du coup, maintenant, l'interprétation des rêves se parle et se négocie entre l'analyste et l'analysant. Et ça, c'est sans doute nouveau, puisque dans cette science des rêves à laquelle on a affaire au XIXe siècle, il n'y a pas beaucoup d'usage thérapeutique du rêve, sauf chez les médecins peut-être, dans la tradition hippocratique et galénique. Et par ailleurs, effectivement, cette pratique est essentiellement une pratique d'auto-observation. Mais je vous ferai remarquer aussi que dans l'interprétation du rêve, le livre de Freud, vous avez aussi une pratique de l'auto-observation, puisque Freud, lui aussi, notait ses rêves et tenait des petites notes de rêve, etc. On en a quelques petites bribes dans les archives Freud, mais très très peu. Voilà, donc c'est un peu juste pour conclure sur ce pays des rêves. Vous voyez, je vous ai amené sur un rêve pas très réjouissant, certes, de guillotine, mais je crois qu'il est vraiment très, très intéressant de suivre ce fil.
Merci, Jacqueline. C'était vraiment passionnant. Merci, comme toujours, Jacqueline. Pour l'anecdote, la guillotine, ça vient de Guillotin, qui était le nom d'un médecin de Saintes, et qui avait inventé la machine pour que les gens ne souffrent moins.
Il était du pays alors.
Oui, il était de Saintes, parce que en fait, les gens on les décapitait et c'était absolument horrible. Donc, il a voulu faire une machine qui soit efficace. Et à l'époque aussi, il y avait une mode des guillotines. Il y en avait partout chez les gens. Ils avaient leur guillotine limite comme taille crayon. Enfin, voilà. Ça, c'était pour l'anecdote histoire des sciences événementielles.
Oui, oui, mais c'est important.
Voilà. Donc, y a-t-il des questions ? Vous allez peut-être nous raconter. Avez-vous fait des rêves de guillotine ? Donc ça se situe bien dans l'époque. Est-ce qu'on pourrait trouver des rêves actuels qui pourraient correspondre à cette histoire que tu nous racontes de la guillotine ?
Alors, la question de la rapidité des rêves se pose toujours. Tu vois, la physiologie, etc., elle est reprise par les physiologistes. Alors bon, je ne suis pas une physiologiste, mais elle se pose toujours. Alors, je ne sais pas. Peut-être que, en tous les cas, par exemple, dans les clés des songes, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant, au XVIIIe siècle, la guillotine, évidemment, n'y est pas, mais par exemple, il y a Gibet. Tu vois, donc il y a des rêves de mort par exécution. Alors on peut espérer que l'abolition de la peine de mort, peut-être, ait en quelque sorte apaisé les rêves d'exécution, mais va-t-on savoir je ne sais pas.
Et les personnes qui transcrivent, qui écrivaient leurs rêves, est-ce que les rêves étaient différents suivant aussi le milieu d'où ils faisaient, enfin le milieu où ils étaient, et aussi, enfin un rêve populaire n'est pas le même qu'un rêve de savant, quoi.
C'est pas une question qu'on se pose tellement au XIXe siècle. Hein. Mais en revanche, tu as eu une enquête dans les années 1970 de Jean Duvigneau, qui était un sociologue qui maintenant est mort, et qui s'était posé cette question. Donc il avait fait une très grande enquête, tu vois, en se demandant, on demandait à des ouvriers, à des cadres, à des jeunes, des vieux, etc. Alors il y a une autre catégorie qui apparaît dans le livre de Duvigneau, qui est la catégorie au fond de ce qu'on pourrait appeler les amateurs de rêves et ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves, qui ne s'y intéressent pas, beaucoup moins. Tu vois, et je pense que peut-être elle recouperait aussi celle du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se passionnent pour leurs propres rêves. Donc il y a un rapport qui est très particulier, et ces gens passionnés pour leurs rêves, alors évidemment la psychanalyse a aussi aiguisé cela actuellement, ça peut être souvent des gens qui sont en analyse, mais pas seulement. Par exemple, les surréalistes écrivaient leurs rêves, notaient leurs rêves, et tu as encore des écrivains qui publient leurs rêves. Hélène Cixous récemment, enfin bon, voilà. Donc, mais en même temps, alors il montre comment effectivement les rêves sont différents selon les classes sociales, aussi selon par exemple les jeunes et vieux. Par exemple, les vieilles personnes, alors en 70, ça, c'est assez intéressant parce que en 70, les personnes qui étaient âgées en 70, c'était des personnes qui avaient connu le 19e. Or, ils parlent, c'est eux qui évoquent le plus les rêves prémonitoires, par exemple. Tu vois, voilà. Et puis, alors, bon, enfin, là, je me souviens plus du détail de l'enquête de Duvigneau, mais voilà. Je crois que tous ces savants sont aussi des gens qui. Alors, évidemment, plus on note ses rêves aussi, et ça, ils le notent tous, plus on s'en souvient, et plus on fait des rêves très particuliers dans lesquels on a conscience de rêver. Et on a conscience de chercher le sens des rêves. Donc, il y a une sorte de.
L'automatisme qui se met en place.
Oui, oui, on sent. Il y a un entraînement, en quelque sorte.
Un entraînement.
Une sorte d'exercice des rêves. Mais Freud, lui aussi, dans l'interprétation du rêve, il fait des rêves, ce qu'on appelle maintenant des rêves lucides, dans lesquels il a conscience de rêver et de pouvoir orienter son rêve. Alors, est-ce vrai, est-ce faux, je ne sais pas.
Ça pose un problème quand même qu'il n'y ait pas de rêve de femme dans. À partir de quel moment on a des retranscriptions féminines ?
Alors, c'est-à-dire que si tu considères qu'à l'époque la science est essentiellement masculine, tu vois, voilà. Alors, tu as quelques. rêve. Alors, tu as eu des enquêtes, une enquête, pardon, il y a eu une enquête qui a été faite sur un psychiatre, Santé des Sentis, donc vers 1900. Hein. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, un grand succès européen. Et notamment, il s'interroge sur les rêves des femmes et des hommes. Et alors, il semblerait que les femmes, enfin, c'est ce qu'il dit, hein, fassent des rêves plus mystiques, plus merveilleux, moins prosaïques que les hommes. Mais
ce sont des rêves genrés, alors
Probablement, oui. Enfin, avant la lettre.
D'accord.
Bonsoir. Est-ce que vous faites la différence entre rêve et cauchemar? Parce qu'en fait, quand j'entends de la famille ou des amis me dire oh, « j'ai fait un rêve », ils me le disent de façon presque joyeuse. C'est quelque chose de merveilleux. Alors qu'aujourd'hui, quand on rêve de quelque chose de tragique, on dit plutôt un cauchemar, on ne dit pas rêve.
Alors, c'est une bonne question, parce que je l'ai un peu... Vous remarquez, je crois que le cauchemar, hein, donc dans je suis une historienne, hein, je ne suis pas une psychologue, donc je ne vais pas vous répondre autrement qu'en historienne. Donc le cauchemar, c'est censé donc être un démon qui peut prendre une forme masculine ou féminine et qui appuie sur l'estomac du dormeur ou de la dormeuse et qui s'unit avec elle. Hein. Donc il y a des relations sexuelles avec elle. Il ou elle. Mais c'est généralement plutôt d'ailleurs un démon masculin. Et donc c'est un genre très particulier de rêve dans la tradition religieuse. C'est finalement quelque chose qui vient d'un autre d'ailleurs. Et ces savants, ces rêveurs, ces savants rêveurs, ceux que je nomme les savants rêveurs, qui observent leur sommeil, eux, évidemment, ils disent les rêves sont des phénomènes, certes mystérieux, mais ils n'ont pas un sens merveilleux. Et donc, ils ne renvoient pas au diable, ils ne renvoient pas, ce ne sont pas des visions divines, ils ne renvoient pas à l'avenir, etc. Donc, ils ont tendance plutôt à dire, à éliminer le terme de cauchemar. Hein. Et vous voyez que, par exemple, Maury, alors c'est intéressant de voir que Brière de Boismont, d'ailleurs, parle de cauchemar, lui. Il emploie le terme de cauchemar dans le premier texte. En revanche, pour raconter le rêve de la guillotine, donc, Maury évite le terme de cauchemar. Il dit c'est un rêve. C'est-à-dire que pour lui, c'est la même catégorie de faits. Et c'est le moment aussi, au XIXe siècle, où les deux termes de songe et de rêve deviennent équivalents, enfin deviennent synonymes. Alors, en fait, le terme de rêve dans le songe, si vous voulez, c'est un rêve qui aurait un sens quand on parle des clés des songes, notamment, puisque dans les clés des songes, on distingue les rêves qu'on appelle naturels, des rêves allégoriques qui, eux, renvoient donc à l'avenir. Hein. Et donc, il y a les rêves d'un côté et il y a les songes de l'autre. Et au XIXe siècle, enfin, c'est plus, les termes sont différents hein, en grec, mais enfin, on peut très, très schématiquement traduire comme cela en français. Et donc, au XIXe siècle, les dictionnaires constatent effectivement que rêve et songe deviennent synonymes. Donc, songe... Je vais prendre un peu d'eau. Songe devient un terme, au fond, plus recherché, si vous voulez, hein, plus poétique. Et alors, ce qui le montre aussi, c'est que dans les clés des songes, donc le titre « Clés des songes », on le trouve tout le temps au XIXe siècle, mais quelquefois, les auteurs parlent de rêve. C'est-à-dire que les deux mots sont flous et on parle beaucoup moins de cauchemar. Donc, on a un rapport au rêve. Je pense que si, au XIXe siècle, il y a un rapport au rêve qu'on a un peu, un rapport que j'appellerais un peu ludique, au rêve. C'est-à-dire qu'on s'amuse de ses rêves, c'est comme des sortes de curiosités. On les joue à la loterie, bien sûr, aussi, donc il y a un rapport joueur au rêve. Enfin, pas tout le monde, évidemment, mais un certain nombre de rêveurs. Vous voyez, donc, et effectivement, on emploie, disons que les distinctions s'estompent. bien qu'on parle encore de cauchemar ou d'incube. En fait, le terme employé, c'est le terme d'incube. C'est un incube, un cauchemar ou un cube. C'est donc parce que ça renvoie à une origine diabolique.
Dernière question, je voulais savoir par rapport au rêve de la guillotine,
oui.
Si les savants de l'époque n'en ont pas autant parlé parce que la guillotine amène à la mort en fin de compte.
Bien sûr, c'est ce que j'ai dit, tout à fait, simplement, j'ai voulu dire plusieurs choses par rapport à ce rêve de la guillotine. J'ai voulu dire que ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même deux guillotines, si j'ose dire. Vous avez la guillotine de l'origine, la guillotine historique, qui est donc finalement qui guillotine pour raison politique. Sous la terreur, et c'est le rêve de Maury. Et puis vous avez la guillotine qui sert à exécuter les criminels. Hein. Donc on voit par exemple que chez Maury, c'est vraiment un retour à l'origine de la guillotine, lui-même étant historien, Maury, évidemment. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est toujours évidemment lié à la mort. Hein. Si vous voyez le rêve de Tanti, effectivement, là, c'est une guillotine d'exécution qui, à certains égards, fait allusion à sa propre situation de soldat toujours en danger de mort. Mais en appel, il est en appel, il n'est pas exécuté, hein, puisque c'est son père qui le sauve, enfin, qui le sauve momentanément. Momentanément. Je ne sais pas si je réponds. Enfin, en tous les cas, oui, ça renvoie à la mort, à l'exécution et à la peine de mort, bien sûr.
Il l'aurait interprété comment, Freud, le texte sur la guillotine ?
Bah, il l'interprète comme je te l'ai dit.
Oui,
hein.
Oui.
C'est ça qui est très étonnant. Il y a deux... En réalité, j'ai un petit peu simplifié, parce que je pense que Freud a écrit l'interprétation du rêve par morceaux. Donc, il a écrit, je crois, à la fin, le premier chapitre, qui est le chapitre dans lequel il se situe par rapport à la littérature de son époque sur les rêves. Donc là, je pense qu'il avait le livre de Maury auprès de lui. D'ailleurs, il le cite en français. Hein. Donc, tu vois, il résume très finement le rêve de la guillotine. Et puis, ça, c'est dans un autre passage, ce que je vous ai donné. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il l'écrit pendant ses vacances, parce qu'il écrivait beaucoup pendant ses vacances. Donc, il n'a peut-être pas trimballé le livre de Maury, qui est quand même un pavé, tu vois. Et il l'écrit en quelque sorte de mémoire et en re-rêvant sur le rêve de Maury. Hein. Et en disant... Alors, ça lui sert d'exemple tout de même pour parler de ses rêves qui s'appuient sur des fantasmes tout près. Hein? Donc, si on lit l'interprétation du rêve, on s'aperçoit qu'il y a des exemples extrêmement complexes qui renvoient à toute une variété de rêves. Par exemple, tu as chez Freud des rêves de revenants. C'est-à-dire des morts qui réapparaissent. Ce n'est pas des rêves oedipiens. Dans les rêves oedipiens, enfin entre guillemets, c'est des rêves dans lesquels donc, quelqu'un de vivant, on le voit mort dans le rêve. Mais là, c'est un mort qui réapparaît. Par exemple, il y a un rêve où Freud revoit son père sur son lit de mort. Il revoit des collègues morts. Et ces rêves-là lui posent problème. Il est revenu, parce que l'interprétation des rêves, du rêve aussi, c'est un livre... comment dire, feuilleté, hein, puisque en fait, Freud l'a réécrit, l'a republié pendant plus de 20 ou 30 ans. Donc, et on voit bien comment, à propos de ses rêves de revenant, il revient et à la fin, il dit ben, il reste une part d'énigme dans ses rêves. Enfin, donc, moi, ce qui m'a frappé en relisant l'interprétation du rêve, c'est combien il y a à la fois une théorie qui est la théorie sur laquelle tout le monde a discuté, tu vois, et la théorie qui a été mise en cause sur le rêve après interprétation et la réalisation d'un désir réprimé ou refoulé. Et puis, en fait, tu as beaucoup d'exemples de Freud, enfin, ou un certain nombre d'exemples qui sont extrêmement complexes. Et puis, la question qui se pose aussi, et qui apparaît à la fin du 19e siècle, et j'insiste là-dessus, c'est la question du récit de rêve. Qu'est-ce qu'on raconte quand on raconte un rêve? Est-ce que c'est un rêve recréé? Comment rendre compte au plus près du rêve? Tu vois, et c'est pas du tout évident. Et on voit à ce moment-là que de plus en plus, le récit de rêve devient de plus en plus fragmentaire en style télégraphique, tu vois, et au présent. Alors qu'au XIXe siècle, là, il y a eu des études de linguistes qui ont été faites sur le récit de rêve. Au XIXe siècle, on le raconte plutôt à l'imparfait. Et plutôt sous la forme d'un récit. Alors là, le rêve de guillotine est au présent parce que c'est une sorte de marche au supplice très très violente. Hein. On pense un peu à la symphonie fantastique de Berlioz, tu vois, la marche au supplice, c'est un peu ça. Mais après, on les écrit plus au présent. J'espère que vous ne ferez pas. Oui. Non, mais. Voilà. Ben oui, parce que souvent dans les rêves, on reprend des souvenirs de la veille. Donc, voilà. Oui.
Alors, la prochaine conférence est le 25 mars. C'est une conférence sur le genre. D'Éric Fassin, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un sociologue, et donc je vous invite forcément à venir écouter.
Ah oui, vous avez de la chance d'écouter Éric Fassin.
Ça va être enregistré.
Super.
C'est parce qu'en fait, il y a toute une programmation avec le théâtre de Poitiers sur le genre.
C'est bien.
Partie des conférences. Faut que tu signes le petit papier, Jacqueline.
Ah oui,
conférence. Merci, en tout cas.
Ben non.
Comme d'habitude.